Grand Dialogue.
Sigika Foba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiru.
Halud Mouni.
Chenibiri. Sigika Foba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Les mines, c'est d'elles qu'il est question dans le Grand Dialogue d'aujourd'hui. C'est à la faveur des 6e journées minières et pétrolières du Mali qui ont commencé ce mardi ici même au Centre international de conférences de Bamako. C'est pourquoi notre équipe s'y trouve. Les mines au Mali, le sujet est bien complexe et il suscite beaucoup d'interrogations de la part des Maliens. Alors, quelle est la situation de la production minière au Mali? Combien de tonnes produit le pays en tant que troisième producteur africain de ces minerais? Il s'agit bien sûr de l'or. Quelle est la part de l'or dans l'économie nationale? Des gisements de pétrole, de gaz, de fer, d'uranium, on en parle. À quand leur exploitation? Beaucoup d'interrogations donc, des interrogations que nous allons partager avec nos invités au nombre de trois. Docteur Boussissé, ministre des Mines du Mali. Bonsoir, monsieur le ministre.
Bonsoir.
Et madame Fatima Aram Assil, elle est commissaire en charge du commerce et de l'industrie et au niveau de la Commission de l'Union africaine. Bonsoir, madame.
Bonsoir.
Et nous avons Amadou Tcham. Amadou Tcham est le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale honorable. Bonsoir. Cette émission vous est donc présentée par Seydou Fomba. Mesdames et messieurs, bienvenue. Je vous le disais, c'est parti pour les 6e journée minière et pétrolière du Mali depuis ce mardi, occasion de mettre sur la table le dossier pas si simple des mines. Cette 6e édition a pour thème accroître la contribution du secteur minier à l'économie nationale. Alors, monsieur le ministre Boubou Cissé, avant d'entrer dans le vif du sujet, dites-nous que vous inspire le début de cette 6e édition.
Je dirais que ça a plutôt bien commencé. Le Premier ministre nous a fait l'honneur d'assister et de présider la séance d'ouverture ce matin. Il a fait un discours assez remarquable où il a précisé certaines orientations par rapport à l'attente du gouvernement de ce secteur, un secteur qui est un pilier de notre économie, un secteur qui contribue à notre croissance économique, mais un secteur que l'on veut qu'il contribue à présent au développement socio-économique, notamment le développement dans les régions minières. Donc jusqu'à présent, les choses se passent plutôt bien. Il y a une forte affluence. Toute l'industrie minière est présente, que ce soit au niveau de l'exploration ou même des sociétés qui sont en exploitation dans notre pays. Les sociétés de services sont là aussi. Dans les différents discours qui se sont passés ce matin, la question de l'utilisation, la question du contenu local et des achats locaux a été très importante. Donc c'est assez agréable de voir toute cette industrie de sous-traitants qui sont ici présents et dont on espère vont pouvoir faire un copartenariat avec les sociétés minières.
Alors, combien de pays sont représentés à cet événement?
Je n'ai pas le nombre exact, mais il y en a beaucoup. Les grands pays miniers, ou en tout cas les sociétés qui représentent certains pays dans le monde minier sont des sociétés australiennes. Il y en a pas mal qui sont ici, canadiennes, sud-africaines. Nous avons le plaisir de recevoir aussi des pays qui sont nos voisins. Il y a une forte délégation du Sénégal, du Burkina qui est là. Nous avons les représentants de la Commission de l'Union africaine. C'est assez divers et varié et ce qui est sûr, ils sont nombreux aujourd'hui ici.
Alors, Madame Fatima Aram Assil, alors, vous êtes justement commissaire en charge du commerce et de l'industrie au niveau de la Commission de l'Union africaine. Comment est-ce que vous appréciez le début des travaux?
Les travaux se sont très bien commencés. Je veux dire, le Premier ministre était là. On compte à peu près 1000 personnes, donc c'est quand même assez considérable. Comme le ministre vient juste de le dire, en fait, les sociétés minières sont là. Et ça, c'est vraiment une confiance pour dire que maintenant, la paix est restaurée. Les investissements accrus vont commencer et vraiment, ils sont là pour venir voir le pays et surtout négocier des contrats qui sont gagnants-gagnants pour eux et aussi pour la population. Donc, je pense que le Mali est un pays très attirant pour les investisseurs. Il l'est et il le sera. Donc, je pense que les compagnies ont compris ce message. Et c'est pour ça que je pense qu'on a constaté vraiment un très, très nombre de participants à cette conférence.
Amadou Thiam, vous êtes le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Dites-nous, ces journées minières et pétrolières du Mali, qu'est-ce qu'elles peuvent apporter selon vous?
Tout d'abord, nous nous félicitons vraiment de l'organisation de ces journées. Et c'est le lieu pour moi de féliciter très sincèrement le ministre des Mines, Boubou Cissé. J'ai assisté à la 5e édition en 2013. Et je pense que l'engouement n'a pas du tout faibli. Et je pense que ça, c'est une marque de confiance venant de la part des investisseurs, de sociétés minières à l'endroit du ministère des Mines. Parce que vous le savez bien, l'investissement minier repose surtout sur la stabilité politique et juridique aussi. Ça veut dire la question de fiscalité. Et je pense qu'il a su vraiment avoir la confiance, maintenir la confiance des sociétés minières. Et cette 6e édition est là une preuve pour dire que la confiance est toujours là. Et je pense que ce n'était pas évident, compte tenu du fait que le cours de l'or avait continué à baisser. Et quand on prend aussi en compte le fait que le climat sécuritaire était un peu... amener un peu à douter de la continuité des investissements. Mais les miniers ont continué à investir jusqu'à présent. Et ça, c'est l'actif du ministère des Mines. Et je pense que ces journées sont vraiment des preuves palpables à cet effet.
Alors, et comme l'honorable Thiam, monsieur le ministre, vous aussi, vous fondez certainement beaucoup d'espoir sur ces journées.
Absolument, nous fondons beaucoup d'espoir et l'idée étant de rendre notre pays toujours plus attractif pour ce type d'investissement direct étranger qui se fait de plus en plus rare compte tenu de la chute des cours des matières premières, comme l'honorable Thiam l'a dit. Donc ce sont des journées promotionnelles avant tout et donc on en attend beaucoup.
Cette question pour vous, monsieur le ministre, qui est à ce jour le premier investisseur minier au Mali?
Le premier investisseur, alors quand on regarde en termes de volume de production d'or et de volume d'investissement financier, je pense que c'est la société Randgold qui aujourd'hui exploite 3 mines dans notre pays, dans la région de Kaï, il y en a 2, et puis dans la région de Sikasso, il y en a 1. Ces 3 mines à elles seules font pratiquement un peu plus du tiers de notre production d'or. Et quand on regarde les investissements qu'ils ont eu à faire, que cette société a eu à faire sur les 2 mines qu'elle a dans la zone dans la région de Kaï, c'est des investissements qui montent pratiquement au milliard de dollars entre la mine de Lolo, Gunkoto, le complexe Lolo-Gunkoto et Morila aussi.
Là, ne concerne que 3 mines alors.
C'est 3 mines sur les 10 mines qui sont aujourd'hui en production. Donc je pense que voilà, en termes de volume de production d'or et en termes d'investissement financier qui a été fait dans notre pays, c'est sans doute Randgold. Et quand on regarde même en termes de contribution par rapport à notre économie nationale, quand on regarde les recettes fiscales, c'est une société qui à elle seule représente 50% de l'ensemble des contributions fiscales que les 10 sociétés minières en production font dans notre pays.
Et cette petite question, à combien peut-on évaluer ces investissements?
Alors ça dépend, ils sont assez variés.
De façon globale, oui.
Je vous ai dit, il y a un complexe, le complexe Lolo-Gunkoto par exemple. Gunkoto est une mine qui est entrée en production je crois en 2012. D'après ce que j'ai compris, l'investissement s'est monté à peu près à entre 100 et 120 millions de dollars pour Gunkoto. Maintenant, quand vous prenez Lolo, c'est un investissement qui se chiffre pratiquement à 500-600 millions de dollars parce qu'il y avait une mine à ciel ouvert et maintenant on est en souterrain. La mine souterraine a coûté pratiquement 500-600 millions de dollars. Donc quand vous rajoutez tout cela ensemble, on est à pratiquement au milliard de dollars qui sont des sommes assez considérables.
Honorable, est-ce que vous avez un petit commentaire par rapport à ces chiffres?
Moi, je pense que c'est très encourageant, je le disais tantôt. Ça veut dire que ces sociétés minières ont continué à investir. Et cela dénote de la confiance qu'ils ont à l'égard, à l'endroit du secteur minier. Et il y a une politique nationale de promotion des mines, des zones extractives, qui est assez attractive. Et comme le ministre l'a dit, ça c'est une motivation qui fait que les sociétés minières continuent à investir. Je pense que bientôt on aura le code pétrolier qui sera une autre paire de manches. Et certainement, déjà, les indices que nous avons nous font croire que sur ce secteur aussi, il y aura encore beaucoup d'avancées avec ces textes qui sont assez attractifs. Et je dirais surtout que les sociétés minières ont été d'un apport très important pendant la crise, monsieur le ministre est là. Je pense que quand vous prenez un peu, quand les deux tiers du pays étaient occupés par le Nord, les sociétés minières qui étaient majoritairement au Sud ont pu opérer pour la plupart. Et cela, en période de crise, a pu permettre, à travers les ressources, les recettes fiscales, à pouvoir vraiment faire fonctionner l'État jusqu'à un certain niveau. Et ça nous a vraiment permis d'impulser une nouvelle dynamique jusqu'à la sortie de crise. Donc ça, c'est à souligner. Et je pense que le ministre a su capitaliser cet élan et qui n'a pas du tout freiné. Et je pense que quand la crise a éclaté en 2012-2013, déjà on s'attendait à une baisse de production, mais il y a une augmentation juste l'année qui a suivi. Donc ça c'est à saluer.
Madame la commissaire, à vous maintenant la parole. L'exploitation des mines dans les pays africains, c'est surtout l'affaire quand même des multinationales. Elles sont souvent critiquées. Alors, l'exploitation, la présence de ces multinationales ne pose-t-elle pas problème quelque part, non?
En fait, tout dépend de la politique du pays. Je pense que quand on cherche à attirer des compagnies, que ce soit minière ou dans d'autres secteurs, les compagnies vont venir. Mais c'est important de voir le code minier, est-ce qu'il profite au pays, est-ce qu'il profite les populations, est-ce que le régime fiscal est bon, est-ce que le contenu local est respecté, est-ce que les emplois sont créés. Et donc c'est vraiment toute une politique du pays. Nous, on a la vision minière africaine qui veut dire que vraiment les ressources africaines, les ressources minières, c'est pour l'Afrique, c'est pour les Africains et doit bénéficier aux Africains. Et donc, je pense que le Mali fait un très bon travail pour ça. L'exemple again de Morila, c'est un exemple à citer. Comment faire pour exploiter une mine? Comment faire après la fermeture d'une mine? Comment les populations peuvent gagner? Et bien sûr, quand on veut parler de population, je veux dire de la génération future, il faut d'abord s'occuper de la génération présente. Et une fois qu'on a le savoir-faire, une fois qu'on a quoi faire aujourd'hui, donc on peut penser à demain et à nos enfants de demain.
Alors, monsieur le ministre, à un moment donné, on a entendu un slogan, l'or du Mali doit briller pour les Maliens. Alors, est-ce qu'il brille aujourd'hui pour les Maliens? Peut-on dire cela?
Alors, en fait, je trouve cette question très difficile parce que, surtout dans la manière de répondre à cette question, ce qui est certain, c'est que l'or contribue beaucoup à notre économie nationale. Ça, on ne peut pas le nier. Les chiffres sont là pour le dire. On en a parlé en long et en large toute la matinée. Maintenant, la réalité, c'est que effectivement, les Maliens se plaignent quand même. Il y a beaucoup de nos sœurs et frères dans les communautés qui vivent dans les zones où l'extraction se passe, qui se plaignent. Ils se plaignent parce qu'ils voient l'extraction se faire, ils voient des revenus être générés, mais ils n'ont pas nécessairement vu leurs conditions de vie changer. Et je pense que c'est ce constat aussi qu'a fait ce gouvernement et c'est pour ça que nous sommes en train d'aller vers une nouvelle politique minière dans notre pays qui sera maintenant orientée vers le bien-être des communautés, vers l'amélioration de leur qualité de vie et vers l'amélioration de leurs conditions de vie. Et à ce moment seulement, on pourra peut-être dire que oui, l'or brille pour tous les Maliens.
Sidio Tamani, il sera bientôt 18h30. Nous allons observer une première pause.
Vous écoutez Sidio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
La suite donc de ce débat qui est donc consacré à la situation minière du pays. Alors, accroître la contribution du secteur minier à l'économie du Mali, c'est donc le thème de ces sixième journée. Mais avant de venir à cet aspect du débat, je crois que nous allons donner la parole à l'honorable Cham, monsieur le deuxième vice-président l'Assemblée nationale, le ministre vient de répondre, de nous le dire, il n'est pas très aisé de répondre à la question de savoir si l'or du Mali brille pour les Maliens. Quel est votre avis?
Ouais, je pense que c'est un grand slogan. Et je me rappelle encore au cours des dernières élections présidentielles. Je pense que le président de la République il a beaucoup utilisé ce slogan. Il faudrait que l'or brille pour les Maliens, enfin. Et je pense que il est important que, comme le ministre l'a dit, qu'on puisse avoir une politique de développement communautaire qui est adaptée au développement des mines. Et je pense qu'à l'époque, on avait parlé de kit de développement qui était de façon précise. Ça veut dire que les mines n'avaient pas la latitude d'injecter, de donner à la communauté ce qu'ils pensaient être bon. Mais c'était au gouvernement de concevoir un kit et qui allait suivre la vie de la mine. Et je pense que c'est de ça que le ministre veut parler. Et ça, c'est important. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait un programme de développement communautaire que la mine intègre au niveau de son plan de développement. Et je pense que, en dépit de cela, il y a eu très récemment le forum de l'orpaillage au Mali que je salue. C'était une très belle initiative. Et qui est aujourd'hui, en dépit du fait que il y a les miniers qui sont là, mais les orpailleurs, à un moment, c'était plein du fait qu'il n'y avait pas de couloir minier pour pouvoir aussi leur permettre d'entreprendre les activités. Il y a eu un grand forum sur ça qui a permis déjà il y a un plan d'action qui permettra déjà d'identifier tous les couloirs et enfin de la protéger pour que, à côté des activités minières conventionnelles, que les orpailleurs également puissent travailler, générer des revenus pour leur subsistance. Et encore, ça prendra en charge également la question de revenus même pour l'État. Parce que quand on organise le secteur, c'est clair que ça profitera mieux à l'État. Aujourd'hui, on parle de 50 tonnes d'or par an. Mais je pense que ça va largement au-delà quand on prend en compte la part de l'orpaillage. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et je pense que les recommandations qui ont été faites au cours de ce forum vont être prises en charge par le ministre. Et cela va beaucoup contribuer à faire en sorte que les miniers, les zones minières aussi, c'est pas seulement les mines, ce que l'État gagne, mais c'est aussi créer des connexions pour que ceux qui sont assis sur l'or puissent en bénéficier aussi.
Voilà. Alors, monsieur le ministre, l'orpaillage, c'est quand même un dossier brûlant. Les choses ont-elles commencé à s'arranger?
C'est un dossier important, pas brûlant.
Non, bah, puis les récents événements, ça et là, à travers.
Oui, oui. Non, ce que je veux dire, c'est un secteur pour lequel le gouvernement accorde beaucoup d'importance, mm-hmm. pour différentes raisons. La première raison est ce que l'honorable Cham vient de dire. C'est un secteur aujourd'hui qui quand même produit de l'or. Officiellement jusqu'à 4-5 tonnes, mais on pense beaucoup plus. Et cette activité-là échappe au contrôle de l'État, à la fiscalité. Donc il y a un manque à gagner pour l'État. C'est un secteur qui aussi utilise pratiquement 200 à 300 000 orpailleurs individuellement. Donc quand vous élargissez ça à l'unité d'un ménage, c'est un secteur qui potentiellement fait vivre 2 millions à 2 millions 500.
Et sans vouloir vous interrompre, mais c'est un secteur quand même qui a connu beaucoup de remous ces dernières années, monsieur le ministre.
Non, c'est un secteur qui a connu beaucoup de remous, lié notamment à la hausse du prix de l'or à un moment donné. Mmh. Et dans notre pays, enfin dans le monde, l'or a atteint pratiquement à un moment 1811. Il y a seulement 10 ans, l'or était à $250 l'once. En 10 ans, il est passé de $150 à 1800. Donc il y a une ruée vers l'or, et notamment de la part des orpailleurs. Ici au Mali, il y a des villages qui avaient que 400-500 âmes. Avec la hausse du prix de l'or et cette ruée vers l'or, ces villages-là sont passés de 400 à 500 personnes jusqu'à 10 000, 15 000, parfois 30 000 personnes. Donc vous comprenez que c'est extrêmement difficile à gérer. Cela dit, ce que le gouvernement dit, c'est que c'est un secteur important pour notre pays. C'est une activité qui est ancrée dans nos cultures, dans nos traditions et qui correspond aux réalités du Mali. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour que cette activité-là soit mieux encadré, mieux contrôlé, comme ça a été dit, et bénéficie non seulement aux orpailleurs pour les sortir de cette trappe de la pauvreté, mais également à l'État. Et le forum dont l'honorable a parlé a été l'occasion de discuter de tout ça, de faire des recommandations qui sont aujourd'hui en train d'être mises en œuvre, ces recommandations-là. Et le problème des couloirs d'orpaillage était effectivement un problème qui a été discuté, posé sur la table par les orpailleurs. Depuis le forum, enfin un an après le forum, nous avons quand même créé une dizaine de couloirs d'orpaillage sur lesquels les orpailleurs vont pouvoir exercer leurs activités librement sans être menacés d'être déguerpis, etc. Maintenant, nous sommes en train d'aller un peu plus loin. L'idée, c'est de les organiser en des coopératives ou en des groupements d'intérêts économiques et qui auront une responsabilité et à rendre des comptes envers l'État et qui vont pouvoir fonctionner selon des normes et des standards qui sont acceptables pour l'environnement et pour la santé des orpailleurs. Et
Madame la commissaire souhaite réagir peut-être, non?
Non, je pense que c'est bon.
Alors, nous allons donc nous intéresser au thème de ces journées. Je disais qu'il s'intitule « Accroître la contribution du secteur minier à l'économie du Mali ». Alors, pourquoi le choix de ce thème, Monsieur le ministre?
Ce choix est justifié par le fait que, justement, les Maliens se plaignent que l'or ne brille pas pour tout le monde, ou en tout cas ne brillerait pas suffisamment. Donc pour que l'or puisse briller pour tout le monde et à hauteur de souhait, il faut que l'on se pose la question de savoir comment on peut améliorer l'existant, comment on peut améliorer la contribution de ce secteur-là à notre économie, afin qu'elle puisse bénéficier à tout le monde. C'est lié à ça. Et donc ça pose les problèmes de développement communautaire dont le Noël Cham a parlé, ça pose les problèmes de transformation locale de nos produits. Ici, ça pose le problème de la diversification de l'exploitation minière, etc.
Alors, Honorable Cham, est-ce que vous pensez que le choix de ce thème est judicieux?
Oui, tout à fait. Mm-hmm. Vous savez, je pense que cette sixième édition des Journées minières, pour moi, si on doit en un mot qualifier, et ces jeunes, on dirait que l'espoir est permis pour le Mali. Tout simplement parce que j'ai assisté à beaucoup d'autres événements dans beaucoup d'autres secteurs. Et je pense que la réussite de ces journées montre que nous pouvons maintenant commencer à penser que la crise est derrière nous et que nous pouvons d'ores et déjà amorcer le développement tant entendu dans le programme du président de la République. Et c'est pour cela. Comme l'agriculture, je pense que le secteur minier doit pouvoir permettre d'accroître le PIB du Mali. Et je pense que la politique nationale des industries extractives, dont le ministre est en charge de conduire, est une bonne politique. Et je pense qu'avec l'apaisement, avec un environnement politique apaisé, nous allons avoir les investissements nécessaires, parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont là, et pour vraiment faire en sorte que l'industrie minière, le secteur minier, puisse pleinement jouer son rôle de moteur, de vecteur réel de l'économie malienne.
Alors, Madame la commissaire, c'est la sixième journée qui atteste quelque part que la crise est derrière nous. C'est quelque chose dont se réjouit certainement l'Union africaine.
Oui, l'Union africaine est très ravie de l'accord de paix signé, et aussi très ravie de la conférence qui a eu à Paris, qui a eu lieu à Paris avec l'OECD, la conférence des bailleurs de fonds. Et je pense que c'est vraiment important de lier l'accord de paix signé, cette conférence des bailleurs de fonds, surtout les montants qu'ils vont mettre dans le nord, par exemple, du pays, que ce soit pour les infrastructures, les routes, les écoles et autres. Et puis, ça veut aussi dire que c'est l'exploration et l'exploitation du nord, par exemple, qui est vraiment inexploité. Et aujourd'hui, on est très ravis de voir beaucoup des investisseurs qui sont venus ici, qui vont parler des potentialités du Mali et donc accroître le revenu, je veux dire la contribution du secteur minier à l'économie nationale.
Monsieur le ministre, on va revenir aux chiffres. L'or apporte combien de milliards à l'économie nationale?
Alors, en 2013, l'or a apporté à peu près 254 milliards de francs CFA à notre économie. Ce montant a augmenté pratiquement à 274 milliards de francs CFA en 2014. Et je pense que, selon les prévisions, on sera à peu près à 274 milliards de francs CFA en 2015, ou à plus ou moins 5-6 milliards près. Donc ça représente 25% de notre budget national hors financement extérieur.
Alors, honorable Thiam, 274 milliards, c'est quand même une manne importante pour l'économie nationale, non?
Tout à fait. Tout à fait. Et je dirais que j'ai, quand je passais par le stand du ministère des Mines tout à l'heure, et j'ai cru comprendre qu'avec l'ITIE, qui est pour la transparence des industries extractives, je pense que le ministère a mis en œuvre un système qui permet à chaque Malien de pouvoir avoir accès à tout ce qui est comme revenu dans le secteur minier et à pouvoir tracer les différents investissements sur le plan national et qui est fait vraiment de cet argent. Donc moi, je pense que, comme on l'a dit, les Maliens peuvent se dire 274 milliards, où est-ce que tout cet argent va? Donc je pense que c'est le moment au niveau du ministère de mettre beaucoup d'accent sur la publication et faire en sorte que tous les Maliens puissent avoir accès à l'utilisation de ces ressources, de ces revenus issus de l'activité minière.
Une question que beaucoup de Maliens se posent, pourquoi la part du Mali dans les mines se limite seulement à 20%, monsieur le ministre?
Je pense que c'est un choix économique.
Ce n'est pas quelque chose qui nous est imposé, non?
Non, du tout. Vous savez, ce sont des secteurs qui sont très spécialisés, ce sont des secteurs productifs. Le secteur des mines, le secteur des télécoms, le secteur même du transport, ce sont des secteurs où le privé a plus de compétences que l'État de les développer. Je rappelle que nous sommes un pays qui est quand même qui a des ressources minières importantes depuis le temps. Des temps anciens, le Kankoumoussa, depuis en 1300, avait déjà, on dit de lui qu'il avait transporté avec lui 8 tonnes d'or lors de son pèlerinage à la Mecque. Donc depuis ce temps-là, nous exploitons l'or dans notre pays. Et il a fallu attendre les années 90 pour que l'on connaisse un début de développement de cette industrie-là dans notre pays. Donc, il faut garder ça en tête.
Honorable Thiam, vous, en tant que deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, est-ce que vous comprenez que la part quand même du Mali dans les mines se limite à 20%, même si c'est un choix délibéré? Oui,
ouais, je pense que, vous savez, il y avait une tendance dans le temps de nationaliser les mines, parce que ça c'était notre politique qui était là depuis les airs juste après les indépendances. Mais jusqu'à présent, il y a beaucoup d'analystes qui pensent qu'il faudrait qu'on aille vers cela. Mais ce que les études ont montré, ce que l'expérience a montré, c'est que les gouvernements aujourd'hui beaucoup plus sont occupés dans la question du développement de façon durable. Et l'industrie minière est une industrie qui nécessite beaucoup de fonds. Et c'est devenu une industrie particulière. Et quand vous regardez un peu la bourse de Londres, toutes les grandes bourses, c'est devenu toute une grande industrie qui a une spécialisation. Et c'est pour ça que les sociétés privées se sont spécialisées. Et les États, on a vu l'expérience que les États n'ont pas toujours bien fonctionner en nationalisant ces sociétés-là. Donc, en se limitant à 20%, c'est aussi un constat qui est là, qui permet à ces sociétés de pouvoir avoir une emprise privée, qui les permette de fonctionner. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir une législation stable. Et quand on dit 20%, ça c'est le plafond pour l'État, ça rassure aussi les investisseurs privés. Parce qu'ils savent que l'État leur donner l'attitude de pouvoir avancer et il peut prendre des risques, prendre beaucoup de milliards de dollars pour investir. Donc je pense que les États doivent beaucoup plus se concentrer sur les questions de développement durable, les questions de santé, les questions d'éducation et les questions minières. L'expérience a montré que c'est surtout le privé qui excelle. Donc je pense que c'est une approche différente et je pense qu'elle est la meilleure également.
Un choix raisonnable donc. Hein?
Raisonnable, tout à fait.
Basé sur l'expérience, comme ça a été dit, on a au Mali, on a connu l'expérience de la Sonarem. Mm-hmm. La Sonarem était une société d'État qui possédait les titres miniers. C'est elle qui a essayé de développer Kalana. Mais ça n'a pas marché. La mine de Loulou dont on parle, l'État avait, à travers ces structures-là, 51% dans la mine de Loulou. Mais malheureusement, on n'a pas pu le développer. Donc je pense que le secteur privé est plus à même d'être plus efficace dans certains secteurs productifs qu'un État. Et bien sûr, c'est important que l'État soit là. C'est pour ça qu'on est à hauteur de 10-20%. On est présent dans le conseil d'administration et on est régulateur. Mais il faut laisser le privé développer ces secteurs-là.
La suite de ces débats dans un instant.
Une réaction.
Un avis.
Un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
De retour dans ce studio, c'est donc pour vous rappeler que le sujet du jour, c'est les mines. C'est à la faveur des 6e journées minières et pétrolières au Mali. Alors, nous avons évoqué déjà beaucoup d'aspects de la chose. À présent, nous allons nous intéresser à un dossier. On entend parler de cela il y a quand même quelques années aussi, le code minier. Et le code minier, on en parle beaucoup. Donc, je le disais depuis un certain temps. Est-ce qu'il n'y a pas nécessité pas nécessaire qu'on revoie un peu ce code, monsieur le ministre?
Alors, on est en train de revoir ce code au moment où on parle. Si tout se passe bien, nous devrions pouvoir avoir un nouveau code minier au Mali en 2016. Et nous sommes en discussion avec le secteur privé dans ce sens-là. Le plus important, c'est de ne pas imposer quelque chose, mais à travers la discussion et un compromis entre l'État et le secteur privé, d'arriver à un code qui soit accepté par toutes les parties, qui continue à être attractif pour attirer les investisseurs et qui défend les intérêts de l'État. Donc il faut trouver cet équilibre-là. Sinon, on va faire un code qui ne va pas rendre notre pays attractif. Et ce serait dommage. Donc nous sommes en train de le discuter. Les choses se passent bien pour l'instant. Et je pense que d'ici la fin du premier trimestre de 2016, nous arriverons à un nouveau code.
Il y aura donc la relecture du code. Sera-t-elle suivie de celle des contrats, monsieur le ministre?
Cette relecture sera suivie de celle des contrats. Quand on parle de code minier, il y a trois éléments importants qui sont dans un code. Il y a l'ordonnance les activités minières, qui est le code lui-même, qui est préparé par le gouvernement, validé en Conseil des ministres et ensuite approuvé par l'Assemblée nationale. Mais à cette ordonnance-là est attaché un décret d'application. Et puis une convention d'établissement. Donc c'est cette convention d'établissement qui est le contrat minier. Et donc forcément, si on change le code, il faut qu'on aille vers le changement des contrats. Et ça aussi, c'est en cours. Mais nous essayons de suivre une approche méthodique. Nous ne voulons pas aller vers le changement des contrats pour le plaisir de les changer. Mais nous avons adopté une approche qui est méthodique, qui consiste à faire un premier diagnostic sur les contrats en cours. Et ce diagnostic est en train de se passer. Le gouvernement, à travers un appel d'offres ouvert international, a recruté un consortium de cabinets d'audit qui est en train de faire ce travail-là aujourd'hui. Ce cabinet est Deloitte, et qui s'est allié avec d'autres cabinets de juristes réputés pour nous aider à faire ce diagnostic-là. Donc de ce travail, il y aura les faiblesses que l'on va constater et puis des recommandations qui seront faites et qui donneront lieu à un nouveau contrat minier, lequel sera attaché au nouveau code minier.
Honorable Amadou Thiam.
Oui, je pense que nous sommes dans un environnement très dynamique et comme je l'avais dit tantôt, je suis rassuré quand le ministre dit que les négociations sont en train de se faire avec les miniers eux-mêmes, qui sont les premiers acteurs du secteur, parce que nous avons aussi constaté dans certains pays où il y a eu des politiques qui visaient un peu à accroître les revenus de l'État et en ne tenant pas compte des réalités externes sur le plan macroéconomique et également qui n'ont pas tenu compte des différentes des plans, des contrats d'investissement de ces mines-là. Parce que souvent, quand vous prenez une mine qui investit sur 5 ans, et que une fois ici, les textes changent en la matière, en termes de fiscalité, ça peut fausser et tout de suite tout l'investissement, parce que ce sont des prêts, ce sont des qui sont contractés, c'est des engagements qui sont pris ailleurs. Et chaque fois que les sociétés minières pensent que le gouvernement, entre guillemets, n'est pas fiable, que les choses peuvent changer à tout moment, je pense que les miniers font beaucoup attention à ces pays. Et donc je pense que je suis rassuré quand le ministre dit que cette négociation se passe avec les miniers pour prendre en compte leurs préoccupations et pour faire en sorte que ce soit beaucoup plus attractif. Et tout en rassurant que le Mali n'y perd pas, et je pense que ça c'est extrêmement important. Et nous serons là à suivre ce dossier, comme le ministre l'a dit. Et quand ça vient à l'Assemblée nationale, nous serons là à travailler vraiment pour un meilleur cours pour le Mali.
Monsieur le ministre, oui.
Ce qui est important de noter, c'est que nous sommes sur un secteur qui est extrêmement compétitif. Le Mali part avec quelques désavantages. Nous sommes un pays enclavé. Donc, de ce point de vue-là, on peut ne pas être un pays attractif, notamment sur certains minerais que l'on a ici, comme le fer, la bauxite, etc., qui nécessitent des moyens de transport et d'évacuation.
Mais peut-on aller jusqu'à dire qu'on est un peu un pays à risque sur ce plan,
conditions, non ? Je dirais pas attractif. C'est suffisamment parlant. Et deuxièmement, nous avons des ressources dans notre sol et sous-sol qui sont des ressources qui sont présentes dans d'autres pays voisins, comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina, etc. Et donc, nous partageons les mêmes ressources, en gros. Donc, là où le Mali peut faire la différence, c'est justement à travers ces textes législatifs et réglementaires. Et c'est ça qui a fait la réputation du Mali jusqu'à présent, parce qu'on a su avoir un code qui était extrêmement attractif au milieu des années 90, qui était le code minier de 91. Et il faut que cette attractivité-là puisse demeurer avec les différents changements. Et je suis d'accord, tout en préservant les intérêts de l'État. Donc nous allons travailler sur un code qui soit le plus équilibré possible.
Et Madame la commissaire, dites-nous, il est donc important d'avoir quand même un bon texte, un bon code en matière d'exploitation minière?
Oui, je pense que c'est vraiment très nécessaire. Et puis surtout, ce que le ministre vient juste de dire, c'est important vraiment que toutes les parties discutent et arrivent à quelque chose de gagnant-gagnant. Parce qu'aujourd'hui, l'État est là pour préserver les intérêts des Maliens et des Maliennes. Mais c'est aussi important pour que les compagnies qui viennent fassent des profits. Parce que si ces compagnies ne font pas de profits, elles ne vont pas venir dans le pays. Elles ne vont pas venir investir. Ça, c'est une chose. La deuxième des choses, si les compagnies ne font pas de profits, il n'y aura aussi pas de taxes. Donc c'est un manque aussi à gagner pour l'État. Donc c'est important de trouver un équilibre qui est vraiment juste pour toutes les parties et donc un partenariat gagnant-gagnant. Donc c'est vraiment important de vraiment voir les choses, de voir la compétition, de voir les pays environnants, comment attirer et comment aussi profiter de ce secteur.
Monsieur le ministre, je me tourne de votre côté encore. Je crois savoir que deux ou trois des mines d'or vont fermer dans 2 ans. Vous pensez déjà à l'après-exploitation? Ce n'est pas une phase facile?
Non, ce n'est pas une phase facile, mais on y pense. On a commencé déjà à y penser depuis quelques années. Il y a en particulier 2 mines qui vont fermer. C'est la mine de Yatela qui va fermer d'ici quelques mois. Et puis Morila. Et nous y avons pensé déjà il y a plusieurs années, puisqu'il y a une commission nationale de fermeture de ces mines-là qui a été mise en place, composée de représentants de différents départements ministériels qui sont impliqués dans la gestion minière de ces mines-là, la société civile et le secteur privé aussi. Et pour le cas de Yatela, le rapport de fermeture a été validé par cette commission. Maintenant, il va être porté au niveau du Conseil des ministres pour validation. Et donc, nous sommes effectivement dans l'après-mine. C'est une première pour le Mali. Et d'ailleurs, pour les sociétés concernées, ni elles, ni nous, n'avions expérimenté ça dans le passé. Donc, nous souhaitons faire ça dans les règles de l'art, afin que les questions environnementales soient bien prises en compte, que la réhabilitation des sites se fasse très bien, et que surtout l'arrêt de cette activité économique-là ne débouche pas sur des difficultés pour les ménages et la communauté. Il faut penser tout de suite à une autre activité qui va prendre le relais sur l'activité minière. Et le cas de Morila, c'est cela. l'activité minière va s'arrêter, mais elle sera tout de suite reprise par une activité orientée vers l'agribusiness, l'aviculture, la pisciculture, etc.
Monsieur le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, l'après-exploitation au niveau des mines, ça vous donne des soucis?
Bon, je pense que ça doit un peu inquiéter parce que vous savez, l'activité minière, elle n'est pas philanthropique. Elle est tout d'abord une activité qui a comme premier but, c'est un but lucratif. Donc je pense que le souci, c'est est-ce que ces sociétés minières avec l'État seront prêts à investir autant qu'il faut pour préserver l'environnement et pour que ce terrain, cette mine qui restera, puisse encore profiter à la population, que ce ne soit pas une source de pollution pour la population, mais que ça puisse être surtout une source de revenus pour la population. Et c'est pour cela que les dernières politiques minières tendent à aller vers une vie complète de la mine. C'est-à-dire, dès le début, c'est l'exploitation et c'est l'après-mine. C'est-à-dire, ça veut dire que l'investissement ne prend pas seulement en compte le début de la mine à la fin de l'exploitation, mais c'est aussi l'après-mine. Et que dans le cadre de la mine, qu'on puisse mettre en place un fonds qui puisse permettre de prendre en compte les questions environnementales et les questions de réhabilitation après la mine. Donc je pense que c'est une première expérience pour le ministère, pour le Mali. Et je pense que ça doit pouvoir permettre, servir d'école pour qu'on puisse aller vers des fermetures mieux organisées, et plus profitable et plus protégeant à un aspect qui protège l'environnement et les populations.
Alors il nous reste juste 3 minutes, monsieur le ministre, une question quand même pas aussi simple que cela. Vous savez, lors on a assez parlé, on a depuis quand même des années entendu parler des gisements de pétrole, des gaz, des fer, d'uranium. À quand leur exploitation, en quelques minutes?
On l'espère bientôt. Au-delà de l'or dans notre pays, je voudrais dire quand même qu'il y a 2 autres minerais qui sont exploités, même s'ils sont exploités à petite échelle. Il s'agit des phosphates. Et dans la zone de Bourem, il y a une unité de production là-bas qui produit du phosphate. Et bientôt, nous allons aller vers l'exploitation de manganèse, toujours dans le nord, dans la zone de Ansongo. Et évidemment, il y a les calcaires aussi que l'on exploite. Maintenant, l'uranium, on n'y est pas encore. Il y a une société canadienne qui a un titre de recherche sur l'uranium, le cuivre et l'argent, qui a fait des travaux d'exploration assez avancés, mais qui est arrivé à un résultat qui est que bon, le gisement sur lequel ils sont tombés n'était pas commercialement exploitable. À moins que l'on élargisse les ressources, les réserves, je ne pense pas qu'on aura vers l'exploitation de l'uranium dans Faléat comme il était prévu il y a quelques années. Le pétrole, il y a quelques bonnes nouvelles que l'on a eues avant 2012. Notre pays a eu la chance de travailler avec 2 des sociétés pétrolières parmi les plus importantes du monde, Eni et Sonatrach, qui ont investi beaucoup d'argent dans la recherche pétrolière et dont les premiers résultats sont très encourageants. On est sûr qu'il y a du pétrole dans notre pays. La question est de savoir est-ce que ce pétrole est commercialement exploitable et dans quelles conditions. Donc la crise a fait que les choses ont été ralenties. Maintenant, avec la signature des accords, nous espérons pouvoir attirer les investisseurs dans ce secteur encore pour aller vers la production.
Le mot de la fin à vous, Madame Fatima Aram Assil, vous qui êtes la commissaire en charge du commerce et de l'industrie de la Commission de l'Union africaine.
En fait, je peux dire que je suis vraiment ravie de voir un grand succès de la journée minière et pétrolière au Mali. Je suis sûre que, comme je l'ai dit, il y aura déjà des investisseurs. Le Mali va attirer d'autres investisseurs. Et ce qui est vraiment responsable du côté des ministères de mines, c'est vraiment de voir tout le temps comment faire, comment évaluer, comment profiter les Maliens et comment aussi attirer des investissements. Donc, je pense que le ministère veut toujours mieux faire. Le code minier va sûrement être un succès et augmenter le revenu de ces pays et donc vraiment faire du Mali un pays émergent, Inch'Allah, très tôt.
C'est sur ces propos optimistes que s'achève donc cette émission. Je vous rappelle que le sujet du jour, c'était les mines au Mali, gestion à porte perspective. Et nous avons eu l'honneur de recevoir le docteur Boubou Cissé, ministre des Mines du Mali, madame Fatma Aram Assil, qui est commissaire en charge du commerce et de l'industrie de la Commission de l'Union africaine, et le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Amadou Thiam. Il ne reste donc à leur dire merci. Aux opérations techniques, nous avions toute une équipe. Nous avions donc gagné Kanté, nous avons tiré, assisté par Mamadou Ouattara. Alors, au microphone, à la présentation, il y avait donc Seydou Fomba, réalisation, Ousmane Djadje Touré. On se retrouve demain pour un autre débat.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.